Voix nue. Cette semaine, Joël Gayot rencontre André Dussolier. Ce soir, l'art de la métamorphose. Bonsoir André Dussolier.
Bonsoir.
Nous avons hier soir laissé derrière nous la Haute-Savoie où vous êtes né en février 1946. Pour gagner Paris, où vous venez vivre et travailler dès l'âge de 23 ans. Paris, c'est le théâtre et le cinéma. C'est l'endroit où, après avoir suivi la voie royale, cours de théâtre chez Jean Périmoni, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont vous sortez avec un premier prix, puis bref passage par la Comédie française, vous épousez résolument votre destin. Vous voilà donc acteur de théâtre et acteur de cinéma. C'est François Truffaut qui vous donne d'ailleurs votre premier grand rôle. Quel comédien êtes-vous ? Poser cette question, André Dussolier, c'est dérouler à la fois des antagonismes et des complémentarités. Par exemple, je pourrais dire, André Dussolier est un acteur populaire, mais qui joue dans des films d'auteur. Il est extraverti, mais il est intérieur. Il est concret, mais il est rêveur. Il est pressé, mais il est passion. Il est sympathique, mais il peut être très menaçant à l'écran. Il est prolixe, mais il est pudique. Bref, cet artiste qui peut basculer du cinéma confidentiel d'Alain René à celui plus populaire d'Étienne Chatillez et naviguer des écrans aux planches des théâtres, maîtrise de A à Z l'art de la métamorphose. Ça sera l'objet de notre second rendez-vous, André Dussolier. Quel plaisir prenez-vous à cet ADN de l'acteur qui est la métamorphose ? À cette drôle de pratique.
Alors, hier, je faisais allusion justement à une sorte d'emprisonnement dans lequel je me sentais pendant l'enfance. Alors, tout d'un coup, le métier d'acteur, le jeu, m'a permis d'épouser des vies multiples et puis de les vivre de façon extrêmement intense. En plus, je suis arrivé dans les années 70 à Paris, au moment où sur les écrans, on voyait beaucoup de films américains avec des acteurs qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait vu autrefois, c'est-à-dire c'était les Dustin Hoffman, De Niro, Pacino, Nicholson, qui se métamorphosaient vraiment d'un rôle à l'autre. Et j'avais l'impression vraiment que ça correspondait à l'idée que je me faisais du métier d'acteur. Puis ça m'allait bien, ça me convenait tout à fait parce que j'avais envie de vivre des vies tout à fait différentes. Et donc, je trouvais que c'était ça, le métier d'acteur, c'est-à-dire ne pas être reconnaissable d'un rôle à l'autre. Alors, ça m'allait très, très bien de prendre exemple sur cette génération. Et donc, vous avez fait allusion à toutes les caractéristiques ou les qualificatifs qu'on peut attribuer à tous les rôles que j'ai pu jouer ou qu'on m'a proposé de jouer. Et je voulais pas être l'acteur du cinéma d'auteur. J'étais certes très heureux de rencontrer des metteurs en scène brillants à qui je dois énormément, parce que moi j'ai toujours pensé qu'on a en France un cinéma d'auteur qui peut devenir très populaire, et j'ai travaillé avec des metteurs en scène, vous avez fait allusion à René, qui est devenu très populaire, beaucoup plus populaire encore avec On connaît la chanson, ou bien Colline Serrault, on a fait Trois hommes et un couffin, c'était l'époque où Rambo triomphait sur les écrans et où personne ne voulait de ce film-là, et tout d'un coup elle avait fait 5 ou 6 films d'auteur qui n'avaient pas eu un grand succès public. Et voilà, c'est cette chance-là qui existe dans le cinéma français et que j'ai pu rencontrer grâce à ces auteurs. Mais au départ, j'étais un peu frileux. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je vais être catalogué comme l'acteur du cinéma d'auteur, ce qui fut le cas parce que je les ai tous rencontrés, sauf Godard. Mais j'ai rencontré Rivet, j'ai rencontré Romère. C'était une grande joie vraiment intense de rencontrer Romère. J'aurais bien voulu tourner beaucoup plus encore avec Truffaut ou bien beaucoup plus encore... j'ai même rencontré Marguerite Duras. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de metteurs en scène qui étaient évidemment très riches, très, très intéressants et passionnants. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Colline Serrault, qui est actrice et qui sait très bien qu'on peut passer du drame à la comédie quand on est acteur et qu'on n'est pas fiché définitivement comme étant un acteur dramatique ou un acteur comique, eh ben je n'aurais jamais pu faire Trois hommes un couffin. Je sortais de L'amour à mort de René, les distributeurs ne voulaient pas de moi parce que ils disaient mais non, il sort d'un drame absolument épouvantable, on va pas le prendre pour Trois hommes un couffin. Roland Giraud et Michel Bougenat, eux, appartenaient déjà un peu au cinéma comique, mais moi je n'y avais jamais mis les pieds, alors que lorsque j'étais au conservatoire avec Nathalie Baye, on passait que des scènes de comédie. Mais voilà, il suffit de mettre le pied dans un film d'auteur pour que tout d'un coup, vous avez l'impression d'une perspective de représentant du cinéma d'auteur, même si ce cinéma d'auteur, comme j'ai dit tout à l'heure, peut
aussi
tout d'un coup
devenir...
provoquer des surprises populaires formidables, oui. Ben, moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de frontières, quoi, qu'on soit, comme disait Terzieff, il n'y a pas, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela, c'est une phrase qu'on entend, qu'on a réentendue sans arrêt. Mais c'est vrai qu'au théâtre, c'est encore plus sensible parce qu'il y a, le cinéma, le théâtre public et le théâtre privé. Mais voilà, j'aime bien qu'un acteur, par définition, ne soit pas cloisonné et n'est pas seulement une image. Et évidemment, on est choisi par les autres. Et donc, tout est un peu dangereux. C'est-à-dire qu'on peut être choisi en fonction du dernier personnage que vous avez joué ou du dernier genre de film dans lequel on vous a vu. Donc, tout d'un coup, si on peut briser les frontières, montrer qu'on a envie de voyager et qu'on a envie de faire aussi bien le père de Tanguy que Staline, ben, au moins, j'ai l'impression que ça répond à ma vocation d'acteur. Et de montrer aussi aux metteurs en scène qui peuvent me faire confiance pour jouer des choses tout à fait différentes.
Mais il y a, André Dussollier, des métamorphoses qui sont flagrantes et d'autres qui sont plus discrètes. Par exemple, est-ce que vous faites le même travail quand vous devenez justement Staline, grimé en Staline? Vous êtes méconnaissable et en même temps, c'est vous. Hein.
Ouais.
Pour une exécution ordinaire, le film de Marc Duguin, est-ce que vous faites le même travail que quand vous jouez un médecin très sympathique mais totalement d'extrême droite? Pour Chez nous, de Lucas Bellevaux, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que le processus de métamorphose, de transformation est le même?
Alors, ça, on rentre dans les secrets de fabrication. Là,
ah, c'est passionnant, la fabrique. Hein. On va essayer d'y aller.
Oui, moi j'aime bien et je suis toujours un peu frustré quand je rencontre mes amis comédiens parce que je sens que c'est un domaine mystérieux et qu'ils ne dévoilent pas beaucoup. Et moi-même, je suis par exemple très frustré de ne pas savoir comment ils font. Mais ça veut dire en fait que chacun a du mal à en parler. Je vais essayer de le faire parce que j'aime bien parler de ça. Mais c'est vrai que c'est une alchimie étrange, quoi. Moi, j'ai découvert au cours de mes études comment, parce que je crois qu'on devient son propre professeur. C'est-à-dire qu'on est l'élève, on apprend. Voilà, le premier élément qu'on a quand on est acteur, c'est le texte. Que ce soit un scénario ou une pièce de théâtre, c'est le texte. C'est vraiment l'élément palpable. Là, vous vous accrochez aux phrases et puis les phrases, eh ben. Alors, ça peut être la phrase de Staline. Alors ça, c'est tout à fait particulier parce que Staline a existé. Mais si c'est une phrase d'un personnage qui n'a pas existé, bon, ben, il parle d'une certaine façon. Les mots sont, les phrases sont écrites d'une certaine façon. Ça vous donne des indications sur ce qu'est le personnage. Et du coup, vous les appropriez, ces mots, cette phrase, comme si c'était vous qui alliez les dire. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas à créer un personnage. Donc, c'est là que rentre en ligne de compte votre expérience, c'est-à-dire que à force de lire le texte, vous dites tiens, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu à tel endroit, qui avait des mots un peu comme ça, qui avait des comportements un peu comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement les mots, mais il y a le comportement évidemment de scène à scène, les attitudes, la façon de réagir, les silences, etc. Tout contribue à vous emmener vers des images de gens qui pourraient être voisins de ce personnage-là ou qui pourraient lui ressembler. Ces gens-là appartiennent à une certaine famille et ça vous donne une indication. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la réalité, il y a aussi votre imaginaire, c'est-à-dire que vous allez, l'imaginaire, ça va vous permettre d'additionner un peu ce que vous ressentez avec les mots que vous avez à dire, parce que vous avez raison, c'est Staline, mais c'est quand même moi qui dis les mots avec moi, avec ce que je suis, sauf qu'il y a tout un chemin que je dois faire pour aller jusqu'à Staline. Alors Staline, bon, c'est l'exemple le plus extrême parce qu'il a existé, donc je dois m'efforcer, moi, quand je vois le texte qu'a écrit Marc Duguin pour Staline, je dois m'efforcer de ressembler aussi à Staline. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, je m'accroche à certains discours qu'il a fait, parce qu'on n'a que ça, on a quelques photos, mais surtout les discours. Et on voit à travers les discours, simplement à la façon dont tout d'un coup une dame lui amène un verre d'eau et comme elle est maladroite en lui amenant ça au milieu d'une phrase, alors il jette l'eau par terre, il assassine la femme du regard, mais on sent quel tyran ça peut être. Et puis après, on sent la manière d'être à travers des gestes infimes, à travers une façon très très subtile d'être. Donc ça, vous l'épousez chaque jour en épluchant vos carottes ou en allant en vous habillant. Petit à petit, vous additionnez les choses. Moi, je m'étais aperçu que Staline avait, enfin je savais qu'il avait beaucoup de, il souffrait beaucoup des jambes. Il avait cette démarche aussi un peu paysanne. Donc j'avais demandé que on mette des bottes avec à l'intérieur des bas remplis de billes de plomb pour que ça alourdisse, mais pas pour pour pouvoir additionner et créer. Pacino, il disait, c'est beaucoup plus difficile de jouer un personnage qui vous ressemble que de jouer un personnage qui ne vous ressemble pas, parce que un personnage qui ne nous ressemble pas, on est obligé de faire tout un travail de création. Et moi, je revendique vraiment cet aspect créatif. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que quand on a le texte, il n'y a pas seulement le texte, et c'est là que l'acteur, pour moi, peut amener et amène beaucoup de choses, c'est les silences. C'est-à-dire que le texte, c'est vraiment... c'est le bijou qu'il y a dans un écrin, et l'écrin c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le silence. C'est-à-dire que je peux pas travailler mon rôle sans travailler les autres rôles quand je suis devant une pièce de théâtre ou devant un film. Et donc du coup, je vois entre la réplique de mon partenaire et celle que je vais dire tout ce qui peut y avoir de silence. Quelquefois ils sont brefs, si c'est pour dire passe-moi le sel, ou si comment ça va aujourd'hui, et puis que bon, il y a pas grand chose qui se joue, quoique chez Pinter, quand on dit ça va, c'est toujours, il y a toujours ces charges et bien d'autres choses qui ne sont
c'est
pas dites,
mais qui
sont très lourdes,
oui.
Voilà. Oui. Mais quand même, c'est à l'acteur de chercher pour essayer d'enrichir ce silence dans lequel, alors ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus fascinant quand on est au cinéma et qu'on voit les acteurs, et ça on le voit beaucoup chez les acteurs anglo-saxons et américains, parce qu'ils ont pas la même culture que nous. Nous, les Français, on a des auteurs, en particulier au théâtre, qui s'expriment beaucoup et qui vont dire beaucoup de choses à leurs personnages. Les sentiments sont détaillés à l'extrême. Tandis que les acteurs américains, il n'y a pas cette tradition littéraire qu'il y a en France. Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus dans l'économie des mots. Et les silences sont là pour pallier et pour raconter tout ce qui n'est pas dit par les mots. Donc, il y a tout ça qui est... à créer, et même si je joue Romère, qui est très bavard, qui fait beaucoup parler ses personnages, il n'empêche que, parce qu'on faisait souvent ce reproche à Romère, c'est vrai qu'il écrivait pour certains, pour ses acteurs, mais quand même, il y a une part de création pour l'acteur qui est très importante, où tout d'un coup, il y a des silences à certains moments. Moi, j'adore, il y avait une émission extraordinaire sur Arte, il y a longtemps de ça, où on avait enregistré une femme qui avait été témoin d'un événement pendant la guerre qui était assez violent, où il y avait une colonne de prisonniers français, il y avait un Allemand qui tirait un prisonnier de la colonne et qui lui tirait une balle dans la tête, et donc on interviewait cette dame, et elle était un peu intimidée devant la caméra, elle avait un sourire un peu embarrassé, puis elle raconte l'histoire avec ce sourire toujours un peu embarrassé au début, pour la présentation du récit, et puis petit à petit on arrive au moment le plus dramatique, et là tout d'un coup sa voix se casse, et l'émotion la gagne, et tout d'un coup, elle est totalement au présent, quoi, de ce qu'elle est en train de raconter. On recopie son texte, et on le donne à un acteur et un metteur en scène. Et on lui dit, ben, allez-y, jouez, et puis après, on comparera. Et évidemment, le metteur en scène et l'acteur allaient inévitablement, selon le récit qui était fait, là, vers quelque chose d'un peu dramatique, puisque la situation était dramatique. Donc, il colorait déjà les choses de façon dramatique. Or, la vie, c'est pas une seule couleur, quoi. C'est plusieurs couleurs. Et c'est ça qu'un acteur doit faire. Et doit chercher à réinventer. Alors, ça paraît prétentieux de dire ça, mais c'est quand même le but. C'est de réinventer un peu tout ce qu'il peut y avoir à la fois dans les mots, mais pas seulement dans les mots, pour que tout d'un coup, il y ait les bascules, tout d'un coup, soient fascinantes pour le spectateur, où on se dit, où on lit, même à travers un silence, tout un discours qui n'est pas dit par les mots.
Mais voilà. Maintenant que vous dites ça, André Dussolier, je passe devant, dans mes yeux, des images de vous sur la scène du théâtre ou dans des films de cinéma, et je me dis que vous êtes un acteur qui a ce talent de savoir se laisser regarder, mais vous êtes aussi un acteur du regard. Et je ne sais pas si le silence et le regard qu'on porte sur l'autre ont un lien, mais vous regardez votre partenaire, vos partenaires.
Oui.
Et vous vous laissez aussi regarder.
Oui. Pour moi, le regard, oui, c'est capital, ou ne pas regarder le partenaire, ou être de dos, c'est pour ça que la mise en scène, tout compte, quoi, dans une représentation et dans une interprétation de personnage. Et le regard, oui, c'est vrai que le regard, tout ce qui peut être dit aussi, là, ça, oui, ça va dans le sens de ce que je cherche, c'est-à-dire que un regard, un silence peuvent en dire beaucoup plus. La réplique, c'est vraiment le dernier élément qu'on possède pour pouvoir faire avancer l'histoire et pour pouvoir faire avancer le dialogue qui est entre les personnages. Mais tout ce qu'il y a entre, c'est là où le spectateur peut savourer un peu. Parce que avant de dire quelque chose, on peut penser tout à fait le contraire. Hein. Avant de dire quelque chose qui est, je sais pas, je pense à Diplomatie, par exemple, quand je suis face à Scholtitz, je peux très bien penser à des choses un peu folles. La situation est dramatique et il faut que je joue avec cet homme-là comme un chat avec une souris. Et puis lui, je sais bien qu'il est aussi chat à certains moments, donc c'est un jeu diabolique, un jeu d'échecs, et donc là, on va employer des arguments dont on ne connaît pas, peut-être, c'est une magistrale improvisation dont on ne connaît pas celui qu'on va dire dans la seconde d'après, quoi, pour essayer de faire flancher l'adversaire. Donc, du coup, il faut laisser cette part d'improvisation ou la faire toucher du doigt par le spectateur pour qu'il ait l'impression que, et ça, c'est, j'ai éprouvé beaucoup parce que Diplomatie, c'était une pièce de théâtre, j'ai beaucoup éprouvé au théâtre, quoi, où j'avais l'impression que vraiment, avec Nils, Aristrup, on pouvait s'amuser à ménager des silences, des temps, des regards, des choses non dites, non écrites, non parlées, qui étaient quand même beaucoup plus aussi éloquentes que le texte lui-même.
Duel de fauves, hein, que ce spectacle Diplomatie est le film qui a suivi, puisque lui jouait le rôle d'un Allemand qui veut bombarder Paris, et vous le rôle d'un diplomate qui essaye par tous les moyens de sauver Paris du bombardement. Voilà. Je voudrais qu'on parle, André Dussolier, du physique, parce que André Wims me disait qu'il avait la gueule de son époque et que, en fait, sa gueule racontait pour lui la chute des utopies. Votre mère, à qui vous demandiez comment elle vous trouvait quand vous étiez jeune, vous disait « Oh, toi, tu fais partie du gros tas ». Mais le physique, c'est important. Moi, je veux bien être de ce gros tas s'il ressemble à vous, André Dussolier. Votre gueule, elle dit quoi de vous ? Vous avez fait allusion tout à l'heure à Dustin Hoffman, à Sean Penn, à ces acteurs justement qui avaient des gueules non formatées, qui n'étaient pas les créneaux esthétiques en vigueur de l'époque. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, André Dussolier ?
Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Eh ben, qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours été fasciné par les, enfin, une gueule, c'est une photo, et c'est une photo, ça dit rien, quoi. Ça dit une apparence qui peut être séduisante, mais qui parle pas beaucoup. C'est surtout l'animation de la gueule, quoi, qui est importante. Oui. C'est surtout ce qui est la flamme, quoi. J'ai toujours été séduit par, je sais pas, des, c'était des chanteurs quand j'étais enfant, c'était Brel, ou ça, qui était vraiment, qui avait une telle vie en eux que leur gueule était, je sais pas, elle était
magnifiée.
Elle pouvait être magnifiée, et belle et superbe. Et voilà, et tout d'un coup prendre la place, on regarde, on était fasciné par la vérité, quoi. Surtout, c'est ça qui fait qu'une gueule peut tout d'un coup être séduisante, quoi. Le charme, c'est pas de faire du charme. Ça émane de la vérité de la personne, quoi, et de la nature même profonde de la personne, quoi. Et c'est à ça qu'on est sensible. C'est ça qui emporte le tout, quoi. La gueule, l'apparence. Alors, j'étais adolescent quand j'ai posé cette question à ma mère et je devais essayer de savoir si je devais me faire l'arrêt à droite ou à gauche pour savoir si ça pouvait plaire à mes copines. Mais, et donc, elle a dû se débarrasser du problème en bottant en touche et en me disant « tu fais partie du gros tas ». Bon, voilà, comme ça, c'était réglé.
L'humidité donc, toujours. Hein.
Comment ?
L'humidité toujours.
L'humidité, hein, et puis une manière de dire « c'est pas à ça que ça tient, quoi. C'est pas à l'arrêt ou à la manière de te coiffer que ça va peut-être bien, qu'on est toujours en train de chercher une apparence qui peut séduire, mais on sait bien que dans le fond, c'est surtout l'être, quoi, qui va être décisif, quoi, dans notre rapport avec l'autre et dans la séduction qu'on peut opérer. Si je veux pas avoir l'air d'ériger des lois parce que c'est tellement mystérieux, mais en même temps, je suis, moi en tout cas, pour ma part, très sensible à la réalité, à la vérité des êtres, quoi. Et une gueule peut se transformer tellement selon l'être qui est à l'intérieur, que tout d'un coup, la gueule peut être tout à fait différente. Et en tout cas, la photo ne dira rien de la vérité de quelqu'un.
Est-ce qu'il y a des caméras qui brutalisent, qui vous font mal, qui vous ont fait violence? Parce qu'on a cité certains des réalisateurs avec qui vous avez tourné. On ne peut pas évidemment tous les citer. Vous avez joué dans quasiment 200 films. Mais est-ce qu'il y a eu des caméras intrusives qui sont allées voir de trop près quelque chose de très intime, André Dussolier?
J'ai l'impression que c'est celui qui manie la caméra derrière qui peut être absolument quelquefois intrusif ou qui peut être... Mais en même temps, on fait ce métier pour montrer une sorte de vérité, d'intimité, qui n'est pas tout à fait la sienne puisqu'on s'abrite derrière un personnage. Mais donc, du coup, on est quand même complice de cette... Je l'ai jamais vécu comme une violence, mais en tout cas de cette intimité qu'on révèle. Mais il m'est arrivé, par exemple, c'était dans Mélo de René, et c'était la première fois que j'éprouvais un état que je n'avais jamais éprouvé dans la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est un homme qui, au tout début du film, raconte Il est violoniste, il est en scène et il voit la femme qu'il aime dans la salle qui est en train de regarder un autre homme qui vient d'arriver et donc il est en train d'éprouver des sentiments de jalousie terrible mais qui le fait passer à travers le morceau de musique qu'il est en train de jouer. Il est dans une sorte d'impuissance et donc du coup il raconte tout ça. Et j'avais le sentiment, alors moi qui dans la vie est toujours, vous avez parlé du sourire au début, alors c'était un sourire quelquefois, comment dire, de défense hein, et de protection souvent, mais en même temps, ce sourire m'a permis de pas, comme je l'avais vu d'ailleurs autour de moi dans mon enfance, de pas forcément me révéler, de pas dire les choses, de pas dire exactement ce que je ressentais. Et donc du coup là, à travers ce personnage de Marcel Blanc, ça y est, son nom revient, Dormélo, eh bien lui, il était tout à fait nu. Quand il racontait tout ce qu'il racontait, son sentiment de jalousie, et donc tout d'un coup, j'ai senti moi-même, à un moment où dans la vie, normalement, au fur et à mesure de ce récit, j'aurais eu un sourire qui inévitablement serait venu. Lui, il racontait tellement les choses avec brutalité, avec force, avec vérité, que j'avais des muscles du visage qui ne bougeaient plus là où ils auraient bougé autrefois en me faisant sourire, voyez. J'avais des zygomatiques là qui étaient tout à fait en paix, reposés, qui n'avaient plus ce réflexe de sourire. Alors que le personnage, lui, il ne souriait pas, il disait des choses telles qu'elles étaient. Donc c'est pas la caméra qui était violente, mais c'était la possibilité que j'avais moi de pouvoir dire ou vivre des choses comme je les aurais pas vécues, quoi, encore une fois dans la vie. Et je pouvais m'octroyer cette liberté-là. Donc du coup j'étais content de pouvoir le faire à vue comme ça devant un œil anonyme, mais qui pouvait voir un peu le travail, car tout ça est un travail.
Jusqu'à quel point est-ce que vous êtes le personnage André Dussollier? Parce que vous avez employé tout à l'heure une expression intéressante, vous avez dit on doit servir le personnage, ce qui n'est pas exactement la même chose que on doit devenir ou on doit être le personnage. Est-ce qu'il faut croire, selon vous, à son personnage pour pouvoir le jouer? C'est-à-dire qu'entre deux positions qui seraient l'une, il faut rester à distance pour bien avoir la main sur les émotions et donc les manipuler, et l'autre qui serait, c'est la thèse de Diderot, hein, il faut se fondre et ne faire qu'un avec ce qu'est le personnage. Où êtes-vous?
Dans Marathon Man, il y avait
Avec Dustin Hoffman?
Laurence Olivier et Dustin Hoffman, et ils avaient une scène à un moment donné où Laurence Olivier voit Dustin Hoffman qui, juste avant de jouer la scène, court dans tous les sens, etc. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, il faut que je sois essoufflé absolument là pour commencer la scène. Alors il le voit courir et s'agiter, et pourquoi tu fais ça? Parce que vraiment, il faut que je sois réellement essoufflé. Et Laurence Olivier lui dit, mais t'as qu'à faire semblant. Alors voilà, il y a ces deux écoles, hein, il y a deux qui s'affrontent, c'est-à-dire moi je suis pour et j'ai bien, je suis gré aux acteurs américains d'avoir été si loin que même Jean-Louis Trintignant, je crois que c'est lui qui disait quand il avait eu De Niro grossir de 30 kilos dans Raging Bull, il disait j'espère que la prochaine fois il jouera pas un aveugle. Donc du coup il y a une sorte de manière de s'investir que moi je trouve formidable. Mais c'est vrai que dans Raging Bull on se disait on était fasciné par l'apparence de Niro. Donc il faut pas quand même que l'incarnation vous fasse perdre le plaisir du spectateur et de voir le plaisir du jeu, quoi. Et je pense faut toujours garder cette bonne distance. Mais l'incarnation, aller le plus loin possible, s'oublier dans son personnage, moi, je trouve ça formidable. Dans Scène de la vie conjugale à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en scène, je me souviens qu'à un moment donné, avec Nicole Garcia, moi, on était dans une chambre, j'étais dans un lit, il y avait une scène où je sais pas pourquoi, mais on se parlait avec beaucoup de vérité, de liberté. Et il y a un moment donné où je ne disais plus rien, où j'ai failli m'endormir, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais oublié que les
C'est
spectateurs étaient là.
extraordinaire.
Donc, du coup, je
Alors
suis
vous y étiez
pour.
complètement,
Oui,
donc.
complètement. Donc, je suis pour vraiment le fait de m'oublier dans un personnage et dans une situation. Mais je suis comme Diderot, je pense que c'est beaucoup plus efficace si j'ai la maîtrise, si je sais enfin ce que je suis en train de faire, pour pouvoir bien le faire, quoi. C'est ça. Tandis que s'abandonner à un état, c'est bien quand on est conscient et quand on sait ce qu'on pourquoi on s'y abandonne. Mais si on s'y abandonne comme ça, de façon un petit peu violente, forte, comme si on se lançait dans le vide, et bien on est quand même exposé au danger de pas pouvoir refaire la même chose la prise d'après. Donc il vaut mieux, je sais pas, quand on travaille une scène, l'avoir ressenti plusieurs fois, voir tout ce que vous avez envie d'exprimer, de vivre. Ça demande beaucoup de travail. Et puis une fois que vous la vivez, qu'on dit moteur, et là vous pouvez la vivre. Il faut la vivre librement. Vous ne pensez plus, au contraire, la pensée est néfaste. Il faut vous libérer, mais c'est tout le travail, tout l'acquis qui vous permet de vous libérer et de vous lancer. La même chose au théâtre. Alors là, c'est encore pire, puisque là, on part pour 1h30, 1h15 de représentation.
On en parlera demain du théâtre, André Dussolier, mais je voudrais vous poser une dernière question sur la métamorphose. Il y a une métamorphose à laquelle personne ne peut rien, même si parfois la médecine peut un petit peu différer les échéances. C'est l'âge, c'est la vieillesse, oui. C'est le temps qui passe. Est-ce que c'est l'absolu de la métamorphose, finalement, la vieillesse? Surtout pour un comédien.
La vieillesse est là, et puis en même temps, alors c'était dans un spectacle de mise en scène par Giorgio Strehler de Goldoni, et j'avais vu Soleri, qui est un grand acteur de la Commedia dell'arte italien, mais eux, ils jouaient avec des masques. Donc, à partir du moment où ils savaient jouer les personnages avec tout les codes de la Commedia dell'arte, ils pouvaient avoir n'importe quel âge, pourvu qu'ils le fassent de façon prodigieuse et presque comme un exploit physique. C'était extraordinaire. C'était beau de voir Soleri retirer son masque. Je me souviens encore de ce moment au théâtre de l'Odéon, et de voir qu'il avait 65 ans alors qu'il venait de faire des sauts comme Harlequin peut les faire. Donc là, l'âge n'a pas de prise sur le travail. Et moi, j'aimerais bien pouvoir jouer quelquefois des rôles qui sont des caractères avec un âge peut-être avancé, mais en même temps, on est quand même limité pour la crédibilité des choses, et peut-être bien. Mais je pense qu'on peut échapper à l'âge, surtout au théâtre. Au cinéma, c'est plus difficile, quoi. Et même, on peut vous faire prendre de l'âge au cinéma, mais c'est difficile de revenir en arrière. Donc, je ne sais pas jusqu'où on peut jouer pour pouvoir faire, mais il y a des limites, quoi. Évidemment, on peut pas effacer le passage des ans.
Je pense à la phrase de Romain Gary, et je pense qu'elle n'est pas vraie en l'occurrence concernant l'acteur. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Si, justement, ce qui est génial pour les comédiens, oui, c'est qu'au-delà de cette limite, leur ticket est toujours valable.
Est toujours valable, mais enfin, mes amis actrices vous diront pas, oui, forcément la même chose, parce qu'évidemment,
c'est injuste, ça, André Dussolier.
C'est trouvez... injuste, oui, mais c'est, oui, en même temps parce qu'on est des représentants d'éléments de la société, et donc du coup, oui, c'est vrai que voilà, un homme, une femme, c'est vraiment dépendant de l'image, ou l'actrice ou l'acteur sont dépendants de l'image qu'on a des personnages qu'ils interprètent. Donc voilà, il y a des critères tout à fait injustes et irrationnels qui obéissent à ces personnages-là. Alors c'est plus difficile pour une actrice que pour un acteur qui peut, lui, jouer plus longtemps et à qui on pardonnera de jouer des personnages qui peuvent avoir des relations sentimentales alors qu'il a un âge avancé, mais parce que ça correspond à la société, quoi, aujourd'hui. J'ai lu ça encore hier, il y avait une actrice... dans un journal qu'on connaît bien, c'était les femmes de la cinquantaine qui parlaient et qui disaient, plutôt que de révéler son âge, disaient, mais quel âge vous me donnez? Et c'est ça qui est important. En effet, elle a raison, c'est-à-dire que c'est l'apparence qui compte. Et l'animation dont je parlais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la photographie. C'est-à-dire que tout d'un coup, la vie qu'on peut mettre dans un personnage fait que vous gagnez 10 ans, quoi, ou 15 ans, parce que vous avez une jeunesse en vous-même, qui fait que tout d'un coup, le personnage rajeunit. Ça dépend vraiment de celui qui regarde et qui vous donne le rôle.
Et il y a mieux encore, on va en parler demain, André Dussolier, c'est que l'acteur peut être même immortel. Merci, à demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec André Dussolier. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Thibaut Nassine-Ben. Cette émission se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.